Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Direct News, le podcast. Si je vous dis professeur, politicien, biker, fan de Johnny, personnage hors norme, atypique, chaleureux, intelligent, brillant, parfois dérangeant, mais surtout souriant et marrant, alors vous pensez certainement et sûrement au professeur Philippe Morel qui est mon invité aujourd'hui. 66 ans mais 22 dans sa tête, il en parlera du reste. Marié, deux enfants, le professeur pratique depuis quelques décennies la chirurgie générale et la chirurgie viscérale. Prié de prendre sa retraite des Hugues en octobre 2018, il est aujourd'hui dans son cabinet de la Clinique Générale Beaulieu, l'une des nombreuses cliniques attachées au groupe Swiss Medical Network, dont il est maintenant l'un des chirurgiens emblématiques. Le praticien nous parle de son départ des Hugues, de son nouveau défi dans ce grand groupe hospitalier, dans son quotidien avec le robot Da Vinci, qu'il utilise avec brio depuis de nombreuses années. Il sera aussi question de son livre qui a fait couler un peu d'encre dans la République et enfin tout savoir sur la célèbre Route 66 qu'il connaît comme sa poche pour l'avoir parcourue en Harley-Davidson de nombreuses fois avec son épouse. J'allais oublier, et c'est la cerise sur le gâteau, avec une partie mémorable de cette interview consacré à Johnny Hallyday, où l'on découvre que le professeur est un fan de longue date du rocker français aujourd'hui décédé et que pour vous, eh bien, il chantera a cappella assis sur le fauteuil de son bureau quelques refrains de morceaux choisis bien connus à ne pas rater. Surtout, tout de suite, la première question est: si tout cela était à refaire, referiez-vous la même chose?
Alors globalement, je referais la même chose parce que j'ai une vie fantastique, passionnante au plan professionnel, au plan familial aussi. Donc je dois dire que je referais tout. Bien sûr que j'apporterais certaines corrections parce que on apprend de ses erreurs, on fait tous des erreurs, on commet tous dans la vie des erreurs que l'on voudrait pouvoir éviter. Mais disons, sur l'ensemble du parcours, je dois dire que j'ai été très chanceux, que je suis très reconnaissant et que je referai la même chose, et je suis sûr, avec le même bonheur.
Corrections, lesquelles?
Oh, par exemple, la longueur d'un stage en endroit, par exemple, l'importance qu'on a donnée à un travail qui ne l'avait pas, ou au contraire, une autre activité à laquelle on n'a peut-être pas consacré assez de temps alors qu'on aurait dû. Des corrections de ce type-là, qui sont des corrections dans le cheminement de la vie de tous les jours, mais qui ne sont pas des corrections majeures sur l'itinéraire, des amitiés que l'on a peut-être un peu négligées, des personnes auxquelles on n'a peut-être pas prêté l'attention que l'on aurait dû, et on le regrette. Je viens de perdre un ami il y a quelques jours, je regrette de ne pas être allé le voir plus souvent à l'hôpital. Enfin, des situations de ce genre-là, je modifierais pour essayer d'améliorer ma conduite.
J'ai lu dernièrement dans un journal, dans un quotidien connu, 66 ans physiquement, 22 ans dans la tête. Professeur, 22 ans, pourquoi 22? Ça veut dire quoi?
Parce que c'est l'âge où on a envie d'entreprendre, parce que c'est l'âge où on a des projets, parce que
donc
c'est
l'âge... Donc c'est pas par hasard, 22, c'est pas comme
non,
ça...
Non, disons le hasard, oui, 22,
c'est un
hasard.
Ça aurait pu être 24, ça va aussi.
Ça aurait pu être 24 ou 25, mais disons 22 ans, c'est pour dire qu'à cet âge-là, on a des projets dans la vingtaine, disons, on a des projets, on a des idées pour l'avenir, on a des envies aussi, et j'ai l'ensemble de ces éléments, j'ai toujours des projets, des envies, des idées de développement, et je me trouve donc dans cette situation psychologiquement. 22 est un chiffre tiré un peu au hasard, j'aurais pu dire 25, mais c'est vraiment le début de la vie où on a pas vraiment entrepris quelque chose, si ce n'est des études ou une école, et on regarde la vie avec l'envie d'en faire quelque chose.
Travailler avec des jeunes aussi, hein, parce qu'évidemment, quand on arrive à 66, on est obligé de dire qu'on travaille souvent avec des plus jeunes. Très important aussi de s'entourer des jeunes.
Ben oui, dans ma carrière, dans toute ma carrière hospitalière, à partir de quelques années après ma nomination de chef de service, j'ai travaillé toujours avec des gens plus jeunes que moi. C'est certainement ce qui m'a aidé à... Je pense rester jeune, c'est ce qui m'a aussi stimulé, c'est ce qui m'a permis de me remettre en question, parce qu'il faut se remettre en question. Et souvent, les interrogations des jeunes, professionnels ou parfois extra-professionnels, vous remettent en question et vous dites « mais est-ce que vraiment là, j'ai fait juste? Est-ce que vraiment je vais dans la bonne direction ?» Enfin bref, les jeunes ont une vision qui est évidemment beaucoup plus claire, beaucoup plus, entre guillemets, naïve, c'est-à-dire sans préjugés, sans préavis. Et leurs interrogations et leurs questions sont très utiles. Et c'est, je dois dire, certainement un élément qui m'a beaucoup stimulé pendant toute ma vie professionnelle.
On va revenir au tout début. Philippe Morel, enfant, adolescent, étudiant, tout ça, quel parcours c'était? Parce qu'on le sait, hein, la médecine, la chirurgie, tout ça, c'est tellement difficile. On est obligé d'être passionné, c'est presque obligatoirement une vocation. Ça a été le cas pour vous?
Oui, alors écoutez, j'ai commencé comme un enfant aux charmilles, d'un père ingénieur et d'une mère couturière. J'étais fils unique, mes parents m'ont beaucoup donné, en ce sens qu'ils m'ont donné les valeurs de la vie.
Mais pardon,
donné...
couturière, chirurgien, pardon, si vous me permettez, il y a...
Oui, comme on dit dans notre métier, de fil en aiguille. Ouais.
C'est ça.
Non, non, ma mère était couturière, mon père ingénieur, donc ils m'ont donné l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs de la vie, et puis le goût du travail et l'envie de travailler, sans jamais m'orienter dans une direction ou dans une autre, mais me disant... Il faut faire ce qui te plaît, mais il faut le faire à fond. Je n'avais aucun médecin dans ma famille. J'ai connu comme adolescent un dermatologue pour des problèmes d'acné. J'ai connu un pédiatre, je dois le dire, qui m'a beaucoup influencé parce que j'avais beaucoup d'admiration pour lui et d'estime. Et malgré mon jeune âge, il m'a suivi jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Je l'ai beaucoup aimé et je pense qu'il a contribué à me donner ce goût de la médecine qui ensuite s'est avéré, s'est jamais démenti. Il est vrai qu'à un moment donné dans ma vie, quand j'avais 16-17 ans, j'avais songé à faire vétérinaire parce que j'adore les animaux, mais finalement j'ai opté pour la médecine, ce que je n'ai jamais regretté. Et puis pour la chirurgie, de manière un peu naturelle, de nouveau sans influence extérieure, mais en regardant autour de moi, en me renseignant, en lisant bien sûr, en regardant des documentaires, en écoutant les gens parler, la chirurgie m'a très rapidement séduit et encore une fois, je n'ai rien regretté. Puis ensuite, j'ai entrepris ces études à Genève, durant lesquelles j'ai, comme tous ceux qui étaient avec moi, beaucoup travaillé. Bien sûr, il faut y consacrer du temps, de l'énergie, mais on est jeune, on a la volonté, on a des projets. Et cette période de ma vie n'a pas été pour moi difficile. L'université et la faculté de médecine étaient une période de travail, mais pas une période difficile.
Vous avez enchaîné les années, parce qu'on le sait, les deux premières années, il y a beaucoup, beaucoup, souvent, de dégâts. Hein.
Ouais, c'est juste.
Vous, ça a été...
J'ai bossé beaucoup, j'étais dans un groupe, on était 5 ou 6 qui ont tous réussi. Je pense qu'un certain nombre d'échecs sont liés au fait que certaines personnes s'engagent dans la médecine en pensant aimer ses études, en pensant aimer ce métier, et puis réalisent peut-être qu'ils se sont trompés, que ça n'est pas de leur goût, et que ça n'est pas leurs aspirations, et puis finalement ne travaillent peut-être pas assez et échouent aux examens. Mais c'est vrai que la première et la deuxième année, il y a un taux d'échec qui aujourd'hui encore est important.
Et tout de suite, ça a été la chirurgie, tout de suite ?
Oui, ça a toujours été la chirurgie. Il faut dire une petite anecdote, j'avais fait une année de médecine interne au début, après mon examen final. Donc j'ai fait une année d'interne en médecine interne aux hôpitaux universitaires de Genève, et puis qui s'appelait à l'époque l'hôpital cantonal. Et au terme de cette année, le chef de service, qui était le professeur Muller, qui était quelqu'un d'extraordinairement réputé, influent et de grande valeur au plan de sa personne et au plan de ses compétences, m'avait offert de poursuivre ma carrière en médecine interne. Alors j'avais beaucoup d'admiration pour le professeur Muller, mais j'ai résisté, si je puis dire, et j'ai décidé de faire la chirurgie, et il a continué de garder des relations avec moi qui étaient extrêmement proches, extrêmement amicales, extrêmement bienveillantes, mais j'ai rejoint celui qui m'a formé en grande partie, le professeur Adrien Rohner, qui a été mon chef de service pendant d'innombrables années et avec un très grand bonheur.
Alors vous me l'avez dit à l'occasion d'un autre rendez-vous, vous étiez, étant jeune, vous démontiez facilement les vélomoteurs, ça m'a un peu amusé. Du reste, là aussi, c'est vrai qu'il y a un peu, passer du vélomoteur à la table d'opération.
Mon père était ingénieur et puis à l'époque, les moteurs de voiture n'étaient pas ce qu'ils sont. Et je me rappelle avoir amené la moitié du moteur de sa Peugeot 403 à la cuisine, d'avoir changé le joint de culasse, d'avoir s'être occupé des soupapes. Enfin bref, mon père était bricolait beaucoup, puis moi j'adorais bricoler. Alors,
vous avez encore l'occasion maintenant, professeur?
Oui. Écoutez, il y a quelques jours, j'ai encore rafistolé quelque chose sur une de mes voitures, une vieille voiture. Donc oui, puis j'aime bien. Puis à l'intérieur de la maison, c'est moi qui suspends les cadres, c'est moi qui mets les joints aux vitres, c'est moi qui répare certaines choses dans la mesure de mes compétences, parce qu'évidemment qu'elles sont limitées. Mais j'aime bien ce travail-là, j'aime bien bricoler. Et puis, je dois dire que bricoler aussi, peut-être, nous développe une certaine partie de l'esprit, parce qu'il faut, avant de faire le bricolage, il faut savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, comment on va le réaliser, et quel est le but. Donc, oui, je suis toujours bricoleur.
Aujourd'hui, si on revient un petit peu à votre métier hein, de chirurgien, en chirurgie générale, chirurgie viscérale, on va y revenir peut-être un tout petit peu plus tard. C'est vrai que là, il y a pas mal, évidemment, en principe de bricolage. Il y en a beaucoup moins qu'avant, à cause de ce fameux robot Da Vinci. Parlez-nous un petit peu de ce qu'a apporté Da Vinci dans votre métier.
Alors oui, moi j'ai commencé la chirurgie à la fin des années 70, début des années 80, où l'ensemble des interventions chirurgicales, dans la chirurgie abdominale, mais aussi ailleurs, se faisait par ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours, la voie ouverte. On ouvrait la cavité abdominale assez largement, suivant les nécessités, et puis on faisait l'opération qu'il fallait effectuer. Et puis, autour des années 90, fin des années 80, est apparue la chirurgie dite minimalement invasive. Cette chirurgie qu'on appelle des petits trous, c'est-à-dire où on introduit dans la cavité abdominale, par des orifices, 3, 4, 5 ou 6 orifices, des instruments, une caméra. Et alors, je dois dire que ça a été pour les chirurgiens un handicap majeur, parce que les instruments qu'on introduisait n'avaient plus du tout la mobilité que nous donnait le poignet de notre bras ou les doigts de notre main. Il n'y avait plus de flexion-extension, il y avait juste un mouvement, comme je le dis régulièrement, comme des baguettes chinoises, c'est-à-dire en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc une limitation du mouvement lorsque l'on fait ces opérations, et puis une limitation de la vision, parce que la caméra qu'on introduit dans la cavité du ventre vous donne une image que vous regardez sur un écran de télévision. Donc vous la voyez en deux dimensions. Vous perdez la profondeur de champ, vous perdez la troisième dimension. Donc c'est un handicap de mobilité, c'est un handicap de vision, et on a demandé aux chirurgiens, de manière générale, d'effectuer les mêmes opérations qu'ils faisaient en voie ouverte, avec la même sécurité, et peut-être même mieux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le monde chirurgical est parvenu à ce résultat.
Combien de temps, professeur, pour passer de l'un à l'autre? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a eu plein de séances, évidemment, d'entraînement, si on peut dire. Hein. C'est un peu comme les pilotes dans les avions, finalement. Avant d'être dans un cas concret, combien de temps?
Écoutez, il faut un entraînement, je dirais, sur des modèles, un entraînement virtuel qui dure des semaines ou des mois. Cela dépend quand même de l'entraînement que vous avez en chirurgie ouverte. Je prends une opération simple, opération de la vésicule biliaire. Quelqu'un qui sait bien les différents stades de cette opération en chirurgie dite ouverte doit, lorsqu'il effectue cette opération en chirurgie minimalement invasive, apprendre la gestuelle de la minimalement invasive, mais il connaît la technique de l'opération. Il sait quels sont les stades qui permettront d'enlever de manière sûre une vésicule biliaire à un patient. Ceci dit, il restait ce handicap, et ce handicap de diminution de vision et diminution de mobilité devait être pallié. Et c'est là que le robot est intervenu. Le robot Da Vinci, qui est en chirurgie abdominale le seul robot actuellement vraiment répandu et existant, nous a permis de retrouver à la fois une mobilité et une vision telles que nous l'avions en chirurgie ouverte. Je m'explique. Les instruments du robot Da Vinci sont des instruments articulés. Ils peuvent donc se fléchir, s'étendre, et ils peuvent avoir des mouvements de reptation, c'est des instruments articulés, ce ne sont plus les baguettes chinoises. Et puis la vision, c'est cette fois deux canaux optiques, donc une véritable vision en trois dimensions retrouvée avec une profondeur de champ, et en plus un agrandissement du champ opératoire jusqu'à 10 fois. Donc, on utilise toujours les petits trous, on utilise toujours la chirurgie minimalement invasive, mais les instruments du Da Vinci redonnent une mobilité qu'on avait perdue avec la minimalement invasive, une mobilité qui est même meilleure que celle de notre main, parce que notre poignet, il fait une extension jusqu'à à peu près 90 degrés, l'instrument va encore plus loin, jusqu'à 120 degrés à peu près. Et puis une vision meilleure, une vision normale, puisqu'on retrouve la profondeur de champ, et même un agrandissement du champ visuel. Donc là, le chirurgien, tout à coup, s'est trouvé extraordinairement confortable dans sa vision et sa mobilité. Évidemment que cela a comme effet direct d'améliorer la sécurité des patients. Le but, c'est la sécurité des interventions qu'on fait. Et elle est, dans certaines interventions, pour certaines indications, améliorée clairement par le robot Da Vinci.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'utilisez que Da Vinci? Ça vous arrive encore?
Non. Il y a certaines, comme je viens de dire, il y a certaines indications, certaines opérations pour lesquelles soit le robot est, comme on dit dans notre jargon, validé, c'est-à-dire que l'on sait qu'il est utile et qu'il est profitable aux patients. Puis il y a d'autres interventions dont la complexité actuellement ne peut pas être maîtrisée par le robot. Je parle toujours de la chirurgie abdominale, le foie, le pancréas, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, le rectum. Maintenant, dans les autres organismes, tels par exemple l'urologie, où on utilise beaucoup le robot, la chirurgie de la prostate se fait beaucoup maintenant avec l'aide du robot Da Vinci, eh bien là, c'est clair que la chirurgie de la prostate se fait Je ne suis pas urologue, mais à ma connaissance, pratiquement plus qu'avec le robot Da Vinci, pour ceux qui ont la possibilité de l'avoir. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que la chirurgie autre, minimalement invasive ou conventionnelle, comporte des risques beaucoup plus grands et qu'elle n'est pas performante. Mais disons, si je devais avoir, moi, une opération de la prostate, je la ferais faire avec le robot.
Mais à l'époque, on disait qu'il fallait beaucoup opérer pour garder la main, justement, c'était essentiel. Oui. Là, aujourd'hui, on opère moins, vous opérez moins. La main, on a toujours, là, c'est quoi? C'est l'expérience.
Alors, non. Parce que je vais vous dire, le robot porte en fait mal son nom. Un robot, il serait censé nous aider, avoir un certain automatisme, faire des gestes préenregistrés, ce qui n'est pas le cas du tout. Actuellement, tous les mouvements du robot, aussi minimes soient-ils, sont déclenchés par la main de l'opérateur. On a dans la main, dans chacune des mains, des espèces de poignées très confortables, très faciles à tenir, que l'on dirige. Donc la main dirige la poignée, qui elle-même dirige l'instrument. Donc tous les instruments sont mobilisés et tous leurs mouvements sont effectués par la main du chirurgien, par les mains du chirurgien. Donc non, on ne perd pas l'aspect
les
manuel.
Pieds aussi, professeur.
Alors,
les
c'est
pieds.
Juste, on est un peu un joueur d'orgue, si je puis dire. Parce
un batteur.
Les pieds, un batteur.
Faut être un peu batteur. Hein.
Les pieds rentrent en jeu aussi et il y a différentes pédales sur les pieds. Bon, beaucoup plus simple que celle d'un orgue, bien sûr, mais il y a certaines pédales sur les pieds qui permettent de compléter le geste de la main. Rapprocher l'optique, enlever l'optique, changer un instrument pour un autre, parce qu'il y a 4 bras dans le robot. 1 pour l'optique, puis 3 pour les mains, et nous n'avons que 2 mains et 2 bras. Donc il y a un bras qui peut rester en position fixe, par exemple, pour tenir un organe et le suspendre, pour écarter un organe, pendant qu'on travaille avec les 2 autres bras. Et là, ces différentes commandes s'effectuent effectivement grâce à des pédales.
Alors, il y a évidemment des opérations, quand on opère un petit peu, enfin, plusieurs choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aime plus et d'autres qu'on aime carrément moins, mais qu'on fait malheureusement quand même, comme dans tous les métiers, on est obligé de le faire, non ?
Non, moi j'aime toutes les opérations, et je dois dire que...
Il n'y en a pas une où vous dites le matin, oulala, ça y est, non. Aujourd'hui il y a ça.
Non, au contraire, si c'est difficile, je suis content.
Non, ça, mais c'est des vrais passionnés,
ouais,
ça.
J'ai fait de la greffe de foie, qui est une opération très difficile, à la fois pour enlever le foie et remettre le foie, et c'est une opération passionnante et longue, mais je dois dire que j'ai aussi beaucoup de plaisir à opérer, ce que je fais encore régulièrement, une hernie inguinale ou une opération de la vésicule biliaire. Parce que finalement, ce que l'on fait, c'est une opération technique, oui, mais c'est une relation avec un patient. C'est traiter un patient et le soulager d'un problème qu'il a. Et finalement, je préfère peut-être psychologiquement soulager un patient d'une hernie ou d'une vésicule que de devoir l'opérer d'un cancer qui ne sera peut-être pas enlevé en totalité ou qui risque de récidiver. Donc finalement, le geste chirurgical est un des éléments de l'appréciation du chirurgien. Puis l'autre élément, c'est le patient lui-même, le contact qu'on a avec lui, l'aspect humain, l'aspect aider, l'aspect servir, l'aspect être utile. Et quand vous opérez quelqu'un d'une hernie inguinale et qu'il a très mal et que quelques jours après, il vous dit « je ne sens plus rien, ça va bien, tout va bien », pour le chirurgien, c'est une forme de satisfaction, humble bien sûr, mais c'est une forme de satisfaction de dire « tiens, j'ai été utile à ce patient ». Donc non, j'ai du plaisir pour les grandes interventions, et j'en fais encore pas mal, j'en ai fait pas mal depuis que j'ai quitté l'hôpital, aussi bien que pour ce qu'on appelle les petites opérations. Mais il n'y a pas de vraiment petite opération. Une opération de l'appendice, une opération d'une hernie, doit être faite avec la même méticulosité, le même scrupule qu'une opération importante, parce qu'on est toujours à la merci d'un possible geste inadéquat et d'une complication. Donc il faut être toujours très scrupuleux, quel que soit le type d'opération. Mais je les aime toutes.
Quitter les hugues, vous venez de le dire, là on va préciser, hein, parce que c'est vrai qu'il faut peut-être le dire, on est dans votre cabinet aujourd'hui de la Clinique Générale Beaulieu, c'est là où vous officiez, c'est un des endroits où vous officiez. Aujourd'hui, vous avez passé dans un camp, dans le camp des privés, hein, avec Swiss Medical Network, avec plusieurs cliniques, Genolier, etc. Du reste, pour la petite histoire, dans la salle d'attente, j'ai été assez impressionné de voir à peu près une vingtaine de diplômes au mur. C'est assez impressionnant, c'est la première fois que je vois ça, évidemment, chez un médecin.
C'est le fruit des années.
C'est le fruit des années, mais c'est 22 diplômes, comme ça, rapidement, qu'est-ce qui présente, c'est quoi? J'en ai lu un ou deux, il y en a même des diplômes de Serbie, il y en a évidemment de France, c'est un peu plus banal, on n'a pas fait tout le tour, on n'a pas eu le temps. Qu'est-ce qui représente ces diplômes?
Écoutez, ils représentent de nombreuses années de travail, ils représentent l'amitié et la reconnaissance de certains de mes confrères ou de certaines institutions. Ils représentent pour moi chacun une forme d'aventure, une forme de plaisir. J'ai travaillé dans des pays plus ou moins proches de la Suisse sur des bases humanitaires. J'ai travaillé en Afrique du Nord. J'ai travaillé effectivement en Europe centrale à plusieurs reprises. J'ai remis sur pied, par exemple, le programme de greffe rénale à Sarajevo. Après la guerre, il n'y avait plus de chirurgiens greffeurs et il y avait un nombre important de malades qui avaient besoin de greffe rénale. Donc j'ai remis sur pied ce programme avec, évidemment, la collaboration, la contribution des médecins et des chirurgiens locaux. Et puis les travaux que j'ai faits en Libye, par exemple, l'ensemble de ces missions se sont faites sur une base humanitaire, évidemment sans aucune forme de rémunération. J'ai même assez souvent payé mes voyages moi-même, ce qui ne me posait aucun problème. Donc ces diplômes, si vous voulez, c'est des aventures de vie, c'est des parties de vie. C'est pour beaucoup des joies et le souvenir de bonheur d'avoir été nommé dans une académie, d'avoir eu un certificat de reconnaissance pour un travail. C'est une forme de parcours de vie.
Si on pense maintenant au groupe Swiss Medical Network, on a dit donc changement, hein, il y a eu un mercato, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme au football dans le sport. Il y a quoi, il y a à peu
J'ai
près...
commencé le 1er octobre.
Le 1er octobre.
1er octobre 2018.
Comment s'est passé justement le transfert? D'abord, comment la liaison avec eux? C'est vous qui êtes allé leur demander? C'est eux qui sont venus vous chercher? Comment est-ce que ça se passe?
Alors, écoutez, donc d'abord dire que j'ai dû arrêter mon activité au Hugues pour des raisons d'âge. J'avais atteint
à 65
officiellement
ans.
L'âge de la retraite, absolument. Alors ça, il n'y a pas de prolongation, c'est parfaitement normal. Et puis, me sentant encore en pleine forme, je dois le dire, physiquement et dans mon esprit et mentalement, je me suis dit que je pourrais encore continuer quelques temps, ça ne va pas durer 10 ans, mais enfin quelques temps, à opérer et à faire bénéficier les patients de ce que j'avais fait en collaboration avec d'autres chirurgiens et d'autres médecins. Et puis, j'avais depuis de nombreuses années eu un contact avec différentes personnes du Swiss Medical Network, M. Raymond Loretan, président du conseil d'administration, M. Antoine Hubert. Et puis, j'ai retrouvé du reste des photos du bloc opératoire des Hugues lors d'une visite de M. Antoine Hubert. Et puis, j'ai eu des discussions avec eux qui se sont avérées très positives. J'ai eu des discussions avec d'autres cliniques qui ont été... moins fructueuse. J'ai donc décidé de venir travailler dans ce groupe et je suis enchanté de cette possibilité. J'ai été accueilli de manière absolument fantastique, pas seulement au plan matériel, mais également au plan humain. Et je dois dire que dans la tourmente que j'ai vécue,
on va dire qu'il y en avait besoin.
Au mois d'octobre, ceci m'a fait un bien énorme. Parce que c'est vrai que la situation était assez difficile. Mais j'ai été accueilli de manière magnifique, je suis très heureux dans ce groupe. Je travaille essentiellement à la clinique générale Beaulieu, donc à Genève, mais j'opère aussi à la clinique de Genolier, et puis dans le Valais, à la clinique Valère, où je vais 3 vendredis sur 4 faire de la chirurgie robotique, justement, en compagnie d'un des chirurgiens titulaires là-bas, le professeur Daniel Savio, qui m'accueille et que je remercie au passage.
Là, c'est un autre métier quand même, hein, le privé, le public, justement le côté enseignement, le côté universitaire, ça manque quand même un peu.
Oui, alors
enfin, c'est
le centre...
encore trop tôt pour que ça manque vraiment.
Alors le centre est toujours présent, c'est le patient. Le centre d'intérêt, le centre des préoccupations, le centre de l'activité, c'est le patient. Et là, il est présent, quel que soit son type d'assurance. Donc là, rien n'a changé. Mais il est vrai, comme vous le dites, que l'enseignement et surtout la recherche sont plus difficiles dans le privé. Pas impossible, mais plus difficiles. Et le groupe songe à mettre sur pied une structure importante d'enseignement et peut-être de recherche. Et je pense que la médecine et la chirurgie privée ont la capacité de contribuer à la formation des médecins et des chirurgiens. Cela se fait déjà à Genève avec certaines autres institutions privées. Cela se fait régulièrement aux États-Unis. Hein. Les institutions comme la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic sont des institutions privées mais qui contribuent largement à la fois à l'enseignement et à la recherche. C'est un peu moins développé chez nous. Il n'y a pas de raison que l'ensemble des médecins qui ont quitté les Hugues, pour beaucoup, qui sont très bien formés, qui viennent travailler dans le privé, n'aient plus la possibilité de transmettre leur savoir aux jeunes. Et inversement, disons, les médecins hospitaliers, j'en sais quelque chose, sont souvent surchargés par les nécessités d'enseignement essentiellement et de recherche. Et mettre à contribution les compétences, les qualités de l'ensemble des médecins installés en ville, et en particulier en Suisse, et encore plus particulier à Genève, me paraît totalement légitime et devra se développer. Et c'est déjà développé un bout.
Si on repense aux Hugues, justement, à la fin, ça c'est fini finalement. Allez, on va dire un peu en queue de poisson. Aujourd'hui, quel est... On va quand même peut-être juste rappeler, hein, pour la petite histoire, que vous avez été poursuivi à l'occasion d'un livre que vous avez écrit, en ayant donné le nom d'un patient, etc. Un patient qui apparemment se serait plaint, mais qui avait donné son accord. Enfin bref, c'est une histoire assez compliquée, un peu en dessous de la ceinture, si on peut dire. Il reste des séquelles, professeur.
Écoutez,
aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit ?
Dans un état d'esprit très positif et tourné vers l'avenir, c'est clair. Ce qui ne ferme pas forcément les plaies du passé. J'ai écrit un livre sur la transplantation et je l'ai écrit au travers de l'histoire de patients transplantés. Parce que dans l'information que j'ai faite de nombreuses années sur la transplantation, des conférences données, des réunions, des manifestations, j'ai toujours constaté que la voix des patients était celle qui, évidemment, portait le plus auprès de nos concitoyens. Entendre parler un docteur ou une infirmière de transplantation, oui, c'est bien, mais entendre un patient parler de la greffe, de ce qu'il a vécu, ou lorsqu'il est en attente de greffe, de ce qu'il espère, ça, cela pose beaucoup mieux la question et cela... par l'émotion que ça suscite, bien sûr, mais par la vérité que ça suscite, entraîne chez nos concitoyens une réaction différente vis-à-vis de la transplantation, plus favorable. Donc, dans cet esprit-là, j'ai recueilli un certain nombre d'histoires de malades que j'ai connus, que j'ai opérées pour une bonne partie. Et puis, avec l'aide d'un écrivain, M. Joël Serruti, je les ai colligées, mises ensemble dans un livre. Alors, l'ensemble des patients n'ont pas manifesté, ils étaient au courant de la rédaction de ce livre. Un patient qui était, je dois le dire, un ami, quelqu'un de très proche avec lequel j'ai organisé beaucoup de manifestations, a trouvé que j'avais révélé dans ce livre un certain nombre d'aspects de sa vie qu'il n'aurait pas voulu voir révélés. Je respecte sa revendication. Je constate simplement qu'il a retiré sa plainte après une discussion et je ne lui en veux absolument pas. Il reste un patient, il reste quelqu'un qui, malgré ce qui s'est passé et malgré cette volte-face qu'il a fait, je dois le dire, reste proche de mon cœur. Et puis, malgré le fait que le patient ait retiré sa plainte, un procureur a décidé de me poursuivre pour viol du secret de fonction. Alors ne me demandez pas exactement ce que c'est. Je ne veux pas jouer à l'idiot, mais aujourd'hui encore, je n'ai pas très bien compris la différence entre secret médical et secret de fonction. Il se trouve que j'ai été poursuivi pour ceci. Maintenant, bon, je regarde l'avenir. Il est vrai que cette situation venant d'un patient surtout, indépendamment de l'aspect juridique, parce que là, il y a une déconnexion entre la réalité de la vie d'un chirurgien et de la vie de ce que l'on fait, et puis une partie de la justice que je respecte et à laquelle je... me doit évidemment d'obéir, et je le fais avec respect. Mais disons, en dehors de ça, notre vie de médecin et de chirurgien, puis l'enthousiasme qu'on apporte parfois à certains travaux, et l'enthousiasme que j'ai apporté à ce livre, m'ont peut-être fait passer par-dessus une ou l'autre juridiction et régulation que j'aurais dû respecter, je le reconnais. Ceci dit, sans vergogne et sans vouloir une quelconque agressivité, je ne regrette pas d'avoir écrit ce livre,
oui, donc,
parce que
dire,
je suis certain qu'il a contribué à ce qu'un certain nombre de personnes se prononcent après sa lecture en faveur du don et de la transplantation d'organes, et peut-être bien que pour l'une ou l'autre, ça aboutit à un don d'organes qui a sauvé plusieurs individus. Donc, si je devais refaire, je corrigerais l'erreur, si je puis dire, c'est évident. Je ne m'en suis pas rendu compte dans le moment, je m'en excuse, mais je ne regrette pas d'avoir écrit ce livre qui est certainement une contribution parmi beaucoup d'autres à la cause de la transplantation d'organes et du don d'organes.
Et du coup, c'est un peu anecdotique, mais est-ce qu'il a bien marché ce livre ? Parce que ça, c'est important de le signaler.
Alors écoutez,
vous l'avez quand même écrit dans un
marché. Il a très bien marché, puis il remarche depuis qu'il y a eu cette aventure.
On a envie de dire forcément.
Ben oui. Mais encore une fois, c'est des histoires humaines, c'est des histoires vécues, c'est des histoires vraies. C'est vrai qu'elles sont chacune très particulières et chacune très très forte. Et croyez-le ou non, mais je me suis amusé à relire le livre une ou deux fois. Et chaque fois, j'ai de l'émotion en lisant certaines histoires, parce qu'évidemment, je vois en plus de ça le patient et son visage. Et c'est des histoires humaines.
Vous avez gardé quelle relation aujourd'hui avec ce patient ?
Écoutez, je n'ai plus de relation avec ce patient. Je ne l'ai pas recontacté. Je n'ai évidemment pas osé dans la procédure juridique. Il ne m'a pas recontacté, je le comprends. Mais il garde mon amitié et mon respect.
Ça donne presque envie peut-être d'en réécrire un second, non, professeur?
Alors, il y a un deuxième livre qui est prêt, qui est en train d'être peaufiné. Je vais faire tout ce qui est possible pour éviter les erreurs juridiques du passé.
Pas de nom, alors. Hein.
Et écrire un livre qui sera dans les règles de la loi, si je puis dire, mais qui sera une autre contribution, un peu différente, mais toujours basée sur l'humain et sur le patient.
Ça va être justement, oui, ce livre va sortir quand ?
Alors écoutez, il aurait dû sortir il y a 2-3 mois, mais j'ai rajouté quelques chapitres sur des histoires humaines que j'ai vécues. Il va sortir dans le courant de l'année, je pense cet automne.
Juste peut-être nous décrire j'aime assez l'idée d'une journée type de Philippe Morel, parce que tout à l'heure on est arrivé dans votre bureau, on était un peu en avance, hein, c'est vrai qu'on s'en cache pas, et là vous étiez encore à fond sur l'ordinateur, on vous sentait encore assez accaparé, et puis vous m'avez avoué, vous m'avez dit j'ai encore pas mangé, je sais pas si on peut le dire, j'espère que je vais pas me faire attaquer comme la personne,
non, non.
Comme la personne du livre, mais vous avez dit j'ai pas mangé, j'ai pas bu, etc. On est lundi, on peut le préciser, il est 18h, on n'a rien à cacher. Ça, c'est quoi ? C'est une journée type de Philippe Morel ou elles sont toutes comme ça ?
Ça, c'était une journée, elles sont souvent comme ça. C'était une journée administrative. Je n'ai pas opéré aujourd'hui, mais je suis là depuis tôt ce matin. Et c'est vrai que depuis ce matin, je n'ai pas arrêté de répondre à des courriers, de regarder des dossiers de patients, répondre à des interpellations. Enfin, j'ai fait, vous voyez, autour de moi, il y a encore plein de papiers. Il devrait être loin. J'espérais ce matin qu'il serait loin. Et puis, non, il y a peut-être un quart qui est loin. Et puis, quand on
parce
est dans
que vous
la foulée,
assumez beaucoup, vous, Philippe Morel. À l'époque, oui. On laissait tout faire au secrétaire. Hein. On
non,
se rappelle, on avait
travail.
Le dictaphone, non, et puis
non,
là,
j'ai...
on fait soi-même.
Bah, écoutez, j'ai une secrétaire qui est heureusement extrêmement performante, extrêmement ordrée, ce qu'il me faut, et extrêmement méticuleuse. Donc non, elle m'aide énormément. Je ne pourrais rien faire si elle n'était pas là. Non, ce que je fais, c'est vraiment ma part du travail. J'ai un dictaphone, donc je dis que de temps en temps, j'écris un mail parce que c'est deux phrases de réponse à quelqu'un. Mais disons, c'est du travail qui est à la fois du travail médical pour des patients, des dossiers de patients, voir des résultats, regarder avec le radiologue le résultat d'un scanner, par exemple, ce que j'ai fait ce matin. C'est répondre à des interpellations d'assurance, il faut que je réponde moi. C'est répondre à des confrères. C'est répondre aussi à des participations pour des congrès, des sociétés, du courrier divers. Enfin, toutes ces choses qui n'ont pas de nom, mais qui vous bouffent une journée. Puis c'est vrai que depuis ce matin, je ne me suis pas arrêté du tout. Mon assistante non plus, je dois vous le dire, elle est partie à 5h, mais là depuis tôt le matin, elle ne s'est pas arrêtée non plus entre midi et 2h du tout. Mais disons, la journée type, c'est une journée qui intègre quand même l'activité chirurgicale. Et l'activité chirurgicale, ben, c'est un peu la demande des patients. C'est suivant le type d'opération à faire. Alors on commence parfois le matin à 8h moins le quart, 8h. Parfois une opération commence au début de l'après-midi. Ces opérations sont plus ou moins longues, plus ou moins nombreuses. Mais disons, mon plaisir est vraiment d'opérer. Et c'est vrai que l'administration n'est pas forcément très plaisante, même si elle est indispensable.
Ça demande quand même une certaine hygiène de vie. Hein. Je veux dire, quand on opère comme ça à 8h moins quart, on ne peut pas se coucher à 3h du matin. Enfin,
non,
peut-être une
non,
fois, mais
non,
on est obligé quand même d'avoir...
Non. Non, il ne faut pas se coucher à 3h du matin parce qu'alors le lendemain...
Les yeux en face des trous.
Le plus tard, c'est minuit, minuit et demi. Et puis je me lève autour de 6h15, 6h30. Actuellement, à l'époque, j'avais un rapport à 7h30, un rapport avec tout le service à 7h30. Donc à 7h30 le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, j'étais à l'hôpital. Maintenant, je n'ai plus de rapport à 7h30, donc je viens un petit peu plus tard. Ce qui me donne la possibilité le matin de faire un peu de sport.
Qu'est-ce que vous faites comme sport ?
Alors écoutez, j'ai une petite installation chez moi qui me permet de faire des exercices statique, je dirais, enfin statique dans le sens où je ne cours pas, mais j'ai quelques instruments qui me permettent de faire activer différents muscles des jambes et des bras et du dos. Et puis,
vous
parfois...
faites ça seul parce que les coachs sportifs, c'est très à la mode.
Non, je ne fais pas. Non, parce que c'est des heures irrégulières, parce que parfois c'est aussi 10h du soir, parfois c'est le dimanche matin, mais j'essaye de le faire. Et puis, j'essaye, j'y arrive pas non plus toujours, de promener mes chiens le matin, ce qui me fait prendre l'air. Et c'est vrai que tôt le matin, l'air est frais et c'est agréable, mais j'y arrive pas tout le temps là non plus.
Vos chiens. Vous
savez, mes journées sont ordonnées plus parce que je dois faire que ce que je veux faire. Si je dois commencer une opération à 8h moins le quart, ben, il faut que je sois là à 7h30. Si j'ai une opération à 1h de l'après-midi, que j'ai des rendez-vous le matin, ben, il faut que ces rendez-vous soient faits, que le travail administratif et médical suivant ces rendez-vous soit fait, demande d'examen, dictée de texte, etc. Puis tout ça, ça conditionne ma journée. Donc je suis plus en réponse à ce qui m'est demandé qu'en volonté de faire ce que je veux bien faire. Mais il y a quand même des exceptions, puisque samedi, je suis allé skier toute la journée, ce que je n'ai pas fait depuis très longtemps.
Bah, il faut profiter. Les opérations, il peut y en avoir deux par jour, éventuellement, oui.
Alors, ça dépend de leur longueur. Il peut y en avoir deux ou trois par jour, mais ça dépend de leur longueur. Si c'est une chirurgie du pancréas ou du foie, comme j'en ai fait plusieurs depuis le 1er octobre, c'est des opérations qui durent 6, 7, 8 heures. Donc, on n'en fait en principe qu'une dans la journée, pour différentes raisons. D'abord, le chirurgien, puis deuxièmement, l'équipe et les installations des blocs opératoires. Ça, c'est un peu la même règle qu'au Hugues. Et puis, si c'est des opérations qui sont d'une durée plus brève, on peut en faire deux ou on peut en faire trois.
Vous avez parlé tout à l'heure, parce que moi j'aime beaucoup les chiens aussi, vous avez dit je vais promener mes chiens. Combien de chiens ?
Alors j'en avais trois, malheureusement on en a perdu un, il m'en reste deux et un chat.
C'est quoi comme chien ?
C'est deux petits chiens, l'un est un Yorkshire et puis l'autre est un autre petit chien noir d'une race mitigée puisque un croisement. Mais en fait c'est un pincher, un Yorkshire, si on veut les caractériser. Alors, c'est deux petits chiens qui sont extrêmement vifs et que je sors aussi le soir régulièrement. Là, je les sors entre 11h, 11h30, minuit, minuit et demi. Je vais balader mes chiens. Là, c'est très agréable parce qu'il n'y a plus personne. Parce
qu'un moment où on se ressource un peu,
voilà,
on pense à autre chose.
En fumant un cigare ou en finissant le bout de cigare de la veille. Enfin...
Amateur de cigares, professeur.
Ouais, amateur de cigares.
Ça ne va pas tellement avec la fonction. Oui, non.
Non, mais je fume en dehors.
Il semblerait que ce n'est pas mauvais le cigare. Je ne sais pas, c'est ce qu'on dit.
Écoutez,
hein.
ça donne des tumeurs de la langue. Comme je dis à ma femme qui s'en soucie parfois, je dis, mais écoute, on peut au moins couper la moitié, il en restera assez. Mais non, mais j'ai fumé pendant des années la pipe et puis un beau jour, je ne sais pas très bien pourquoi, j'ai arrêté. Puis je me suis mis au cigare que je fume une fois par jour, mais sans avoir de dépendance du tout. C'est-à-dire, si le moment se trouve. Mais en principe, c'est un cigare par jour et les gens de mon service au Hugues le savaient. C'est un moment de réflexion aussi. C'est un moment où on se concentre non pas sur soi-même et même le fait de promener les chiens, mais où on pense à un certain nombre de choses. Et je disais à l'époque à mes collaboratrices et collaborateurs au Hugues, vous ne vous imaginez pas à quel point je pense à vous, de quelle manière je pense à vous, malgré le fait que je n'y pensais peut-être pas assez et que parfois j'ai eu des manquements vis-à-vis d'eux. C'est fort possible dans les pensées personnelles, penser à un anniversaire, penser à féliciter pour la naissance d'un enfant, enfin des choses comme ça.
Justement, professeur, quand on est comme vous, hyper occupé professionnellement, c'est quand même quelque chose qui est très prenant. Hein. On a quand même la vie des gens entre ses mains toute la journée. Hein. Des fois, il peut y avoir des soucis, comme dans tous les métiers. Mmh. Des fois, ça se passe extrêmement bien. Est-ce que quand on rentre chez soi le soir, vous par exemple, on arrive à... Tout d'un coup, on passe la porte. Allez, on est un autre Philippe Morel. On parle justement de tout et de rien. Très difficile.
Non, c'est impossible. C'est impossible. Vous emportez chez vous les soucis des patients, le fait que vous avez peut-être opéré quelqu'un qui a un cancer qui était irrésécable, que vous avez assisté à un autre chirurgien pour une chirurgie difficile et qui, malheureusement, à cause d'une lésion tumorale, justement, n'a pas pu être faite comme on aurait voulu qu'elle soit faite au début. Donc, toutes ces situations patients, toute cette misère, quelque part, ne vous abandonne pas quand vous quittez votre salle d'opération ou votre bureau, et puis ne vous abandonne pas non plus quand vous rentrez chez vous. Donc il faut avoir à la maison des personnes compréhensives. Alors j'ai une femme qui, depuis plus de 30 ans, est extraordinairement compréhensive, puis deux filles, dont l'une est infirmière et l'autre a fait l'école hôtelière, qui sont extrêmement supportives, comme on dit maintenant, qui sont extrêmement proches de moi, et je dois dire que c'est aussi une manière de se ressourcer, parce que suivant la tête qu'on fait en arrivant à la maison, ma femme sait, elle m'attend toujours le soir, elle me prépare toujours un repas chaud, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre. C'est vrai que je rentre plus tôt maintenant que je suis installé dans le privé, que je ne rentrais avant de l'hôpital universitaire. Mais disons, il faut avoir un environnement familial qui soit solide. J'ai la chance aussi d'avoir un beau-frère et une belle-sœur qui sont très proches de moi, et puis quelques amis. Donc ça vous aide aussi, mais ça n'efface pas. Pour répondre à votre question, la préoccupation, le souci, puis tout à coup vous rigolez pour
une
chose.
On est dedans 24 heures sur 24.
Ouais,
on
puis tout à coup vous rigolez pour quelque chose, puis tout à coup cette image, ce souci revient, puis bon, ça vous coupe. Mais il faut quand même vivre, donc on est obligé de passer sur ses sentiments personnels, d'une certaine manière, de contrôler ses sentiments personnels et de passer sur ses émotions très fortes pour essayer de les réduire. Parce que sans ça, votre vie à vous serait infernale, puis celle de votre famille aussi, puis surtout celle des autres patients. Il ne faut pas que les soucis donnés par un patient soient préjudiciables aux autres patients. Donc vous êtes quand même obligé de vous raisonner.
Alors du coup, il faut s'entourer. Peut-être vos amis sont pas nécessairement médecins du même coup. Quoi,
non.
C'est panaché. On essaie justement de
absolument.
Se changer un peu les idées.
Ouais, j'ai un deux amis qui sont médecins, bien sûr, ou deux ou trois. D'autres qui sont dans la musique, d'autres qui sont dans des secteurs complètement différents. Et c'est très utile parce que on évite de reparler des mêmes choses. On peut en parler au plan humain, de manière confidentielle bien sûr, c'est-à-dire sans révéler les noms, etc. Mais on peut en parler au plan humain, et puis eux peuvent nous parler d'autres choses. Donc c'est extrêmement profitable. Ouais.
Vous avez parlé musique. Je crois que c'est le moment peut-être de parler musique, parce que ça, c'est quand même un truc qui est très, très important
c'est
pour
Johnny.
Vous. Exactement, c'est Johnny, c'est Elvis. Je me suis laissé dire, là, ouais. Je suis en train de regarder depuis un petit moment, mais vous avez la chemise fermée. On m'a dit que vous aviez... Alors attention, là, on est en radio. Ah, il semblerait que c'est la même que Johnny, c'est
elle
ça.
Elle a été faite. Ma femme m'a offert ça, elle a fait faire par un bijoutier à Genève, sur mesure, par rapport
c'est
à des photos.
C'est une croix, c'est ça.
C'est la croix que portait Johnny pendant les dernières années, avec le guitariste qui tient sa guitare et qui est sur le musicien qui est sur la croix. C'est exactement la même. Du reste, je l'avais montré à Johnny, qui m'avait dit ouais, elle est bien ta croix, mais la mienne, elle a plus de diamants.
Top
alors
encore.
Le musicien sur la sienne, il se retourne, si je puis dire. Et puis derrière, il y a une colonne de diamants. Mais elle était faite par un bijoutier à Genève et je la porte depuis des années, nuit et jour, semaine et dimanche, je ne l'ai jamais quittée.
Alors qu'est-ce qui a fait que, justement, cette passion pour Johnny ?
Ça a été, c'est pas seulement de la musique. Au début, c'était de la musique, bien sûr. J'étais très jeune, moins de 20 ans. Puis ensuite, c'est devenu une forme de rébellion, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le rock, le yéyé, c'était pas bien vu par nos parents, c'était pas bien vu par les adultes. On était un peu mis au banc, on était regardé de travers. Lorsqu'on portait des pantalons en pattes d'éléphant et puis des chemises en soie, qu'on avait un peu les cheveux longs, on était regardé vraiment de travers. Et Johnny était dans un mouvement...
Je confirme, si vous permettez. Je suis malheureusement... Enfin, de la même époque.
De la
donc
même
je vois très
époque.
Bien de
donc
quoi vous parlez.
Vous voyez ce qu'on a pu vivre sans être du tout des
je
voyous.
Je l'ai vécu.
Sans faire des choses illégales à l'époque, il n'y avait pas de drogue, il y avait peu ou pas d'alcool, j'entends. Mais on faisait un peu les loubards sans méchanceté et sans choses illégales, bien sûr. Mais disons, Johnny et l'équipe dans laquelle il était, de chanteurs français, représentaient une espèce de renouveau dans la musique. Puis ensuite, c'est devenu une forme de mode de vie, une forme, il faut le dire, d'exemple, parce que Johnny a eu énormément de courage, énormément d'intuition dans sa carrière. Et puis, ce que j'ai toujours énormément apprécié, je dois vous dire que ma femme et mes filles sont aussi des fans, c'est cette proximité avec les gens, cette proximité avec le public, cette capacité de communiquer, cette capacité de vous retirer de vos soucis et de vos préoccupations. Vous arrivez à un show de Johnny, au bout de peu de temps, même peut-être avant que le show commence lui-même, avant qu'il ne soit sur scène, vous oubliez les misères de la vie quotidienne et les problèmes de la vie quotidienne. Donc il est devenu, à partir d'un musicien qu'il est toujours resté, un excellentissime chanteur, à mon avis, à l'avis de beaucoup d'autres, il est devenu une forme de vie, une forme de courage. Et vous savez ce que je lui ai dit à Johnny, lorsque, une fois que je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, j'ai dit, écoutez Johnny, on vous a fait certainement beaucoup de compliments, on vous a adressé beaucoup d'ovations, etc. Mais il y a peut-être une chose qu'on ne vous a jamais dit, bien modeste, mais que je vais vous dire. Parfois, quand je fais des très longues opérations, j'ai un coup de fatigue. Ça arrive. À ce moment-là,
je
pense à vous.
Ah non, on ne met pas dans la coopère avec la musique.
Je pense à vous, pas moi. Je pense à vous. Et ça me redonne du courage. Il était très étonné. Il savait que j'étais chirurgien parce qu'initialement, je l'avais soigné. Enfin, j'avais contribué à un petit soin qu'on lui avait donné. Non, je ne mets jamais de musique en salle d'opération. Jamais je n'ai opéré avec la musique en salle d'opération. Je ne peux pas dire jamais, parce que peut-être une fois c'est arrivé à mon insu, mais je n'ai jamais mis un Johnny pour opérer. Non, ça je ne fais pas. J'opère, je suis concentré sur ce que je fais. Je demande que les autres le soient aussi. Et puis Johnny, dans son décès, il est devenu aussi un exemple. Regardez le comportement qu'il a eu vis-à-vis de la maladie. J'entends. Il a fait ce dernier spectacle des Vieilles Canailles avec un courage extraordinaire. Moi, je l'ai vu une première fois à Paris où il était encore assez en forme. Puis j'ai vu un des derniers spectacles qu'il a fait à Genève où il était assis sur sa chaise, où il ne bougeait plus. Et j'ai su après qu'il allait derrière le rideau pour prendre de l'oxygène, qu'il avait été amené sur scène en chaise roulante. Quel courage, quelle volonté. Et finalement, je dois vous le dire, au plan humain, quel exemple.
Combien de fois vous l'avez vu sur scène, professeur ? Vous l'avez
des dizaines et des dizaines de fois.
Carrément.
Depuis l'âge de 17 ans.
Un fan
en Suisse ailleurs. Ah oui, j'ai malheureusement pas pu suivre tous ces spectacles.
Mais là aussi, ça veut dire que quand on arrive chez vous, alors on a compris qu'en salle d'opération, on n'aura pas de Johnny, mais
non,
c'est pas grave.
Non,
en général,
jamais.
On dort, donc c'est pas très grave. Enfin, nous, hein, pas vous, si possible. Donc, Johnny, on aura compris, pas en salle d'opération, mais chez vous, par exemple, il y a quoi ? Il y a toute sa discographie, elle est là, c'est en boucle, tout le temps, vous levez le soir.
Non, Non. Il y a des moments Johnny. Non, il n'est pas tout le temps en boucle.
Pas tout le temps.
Mais évidemment que j'ai toute la collection, certains disques à double, à triple ou à quadruple. Et puis, j'ai un patient que je suis depuis de très nombreuses années, qui est aussi un fan de Johnny, et qui, chaque fois qu'il vient en consultation, il vient 3-4 fois par année, m'apporte un objet rare, un objet particulier, un objet de collection de Johnny.
Alors j'allais dire, justement, est-ce qu'il y a des objets de collection chez vous? Est-ce que vous sortez des fois avec une écharpe?
Je ne suis pas très fétichiste. Et alors vous allez me dire, mais vous avez la croix. Oui, mais ce n'est pas la sienne. Puis dans le fond, c'était aussi une croix au sens de la croix, au sens chrétien. Mais je dois dire que je ne suis pas fétichiste. Alors... J'ai quelques objets que ce patient, entre autres, m'a amené. J'ai quelques disques rares. J'ai quelques objets particuliers. Mais des photos, des dédicaces, tout ça, évidemment.
Oui, j'en ai une,
mais ce n'est pas moi qui l'ai récoltée. La photo que j'ai avec Johnny, ce n'est pas moi qui l'ai demandée. C'est des gens qui étaient là qui ont dit « Est-ce que vous voulez qu'on fasse une photo avec Johnny ?» Parce que je n'étais pas là pour ça.
J'étais pas là
pour montrer ma tête avec Johnny. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était le contact humain. Je dois dire que je n'ai pas été déçu. Les fois où je l'ai vu, j'ai eu l'impression d'un vrai mec, d'un type solide, bien planté dans sa tête. On a discuté, par exemple, du Vatican avec lui, pour vous dire. Il m'a dit ce qu'il pensait du Vatican, de certaines situations, avec beaucoup d'intelligence et de clairvoyance.
Il faudra en parler maintenant du Vatican, pendant qu'on y est, parce qu'ils sont un peu sur la sellette. Mais il n'est plus là pour nous en parler.
Il était bienveillant. Mais disons, on a eu des discussions de... Alors, ce n'était pas des discussions qui duraient des heures, évidemment, parce que je n'ai malheureusement pas pu passer des heures avec lui. Mais les moments que j'ai passés avec lui sont restés fortement imprégnés dans ma tête. Et ma femme était avec moi. Et je dois dire que c'était un contact humain. Extraordinaire. Et avec Laetitia, je dois le dire aussi, avec Laetitia, nous avons eu un contact extraordinaire avec Laetitia. Je voulais organiser une soirée de charité pour sa fondation à Genève qui s'appelle La Bonne Étoile, pour les enfants du Vietnam. Et puis, ces moments où Johnny, en mars 2018, est tombé malade, et puis j'ai renoncé à ce projet, mais je vais le conduire. Et dans toutes les discussions qu'on a eues avec Laetitia, elle s'est montrée aussi extrêmement chaleureuse, attentive, et je dois dire que moi, je garde un excellent souvenir de Laetitia.
La chanson qui revient comme ça, en boucle, de
Johnny.
L'envie d'avoir envie. Et si vous nous la chantiez un petit coup comme ça, parce qu'on m'a dit que vous étiez un grand spécialiste, professeur du karaoké. Si, vous n'allez pas pouvoir vous défiler.
Non, mais pas comme ça, là.
Pas comme
micro,
ça, comme non, ça, non. À cappella. On y va,
alors,
c'est
pour
parti.
Pour moi, la vie va commencer.
Alors,
ça,
on y va.
Alors,
on y va. C'est parti.
Non, mais c'est affreux.
C'est parti. On ne peut pas se défiler. On écoute.
Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays. Là où j'ai amis, mes parents, avaient caché mon rêve d'enfant. Et je peux voir descendre le ciel. Enfin bref, il y a aussi Retiens la nuit qui est jolie.
Oui, on y va.
Non, mais rapidement. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur, le nom de cœur, arrête de chanter. Non, ça, il faut.
Très bien.
Je suis pas un bon chanteur. Je vais vous dire, si j'avais une belle voix, j'avais une belle voix, j'aurais fait de la chanson. J'aurais certainement rien fait, pas réussi, mais j'avais une envie. Puis encore aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un karaoké chez moi. C'est vrai que ma femme chante beaucoup mieux que moi. C'est pas difficile de chanter mieux que moi, mais elle chante très bien. Et puis mes filles aussi. Et puis, je suis ami avec deux ou trois personnes, dont une personne spécialement qui a été un des meilleurs imitateurs d'Elvis Presley, qui s'appelle Yann Massera, qui habite Genève.
Bien sûr, excellent.
Vous connaissez Yann Massera, qui chante excellemment bien. Et j'ai eu la chance d'être ami avec lui. Et que de temps en temps, ils viennent chez moi et qu'ils chantent. Et je dois dire que je suis très admiratif. Ce qui m'amène, un, à l'admirer, puis deux, alors à me taire définitivement.
Parlons d'Elvis. Parce qu'Elvis, il n'y a peut-être pas tout à fait le même contact, enfin je ne sais pas.
On a fait le chemin d'Elvis avec Yann Massera, on est allé aux États-Unis, on a fait 10 jours le parcours d'Elvis, des différents lieux où il est allé, des studios d'enregistrement, de la maison où il habitait, qu'on a visité bien sûr. Et Yann Massera, je dois dire, est non seulement un excellentissime imitateur d'Elvis, mais il est également un connaisseur. Il a des milliers d'enregistrements de disques, ce qui veut dire qu'il a plusieurs fois la même chanson, mais dans des conditions différentes. Et puis, il connaît la vie d'Elvis. Avant de visiter la maison d'Elvis, il m'avait dit, tu verras, au sous-sol, il y a une table de billard, et sur la table, il y a un verre, qui est donc le verre de la lampe qui éclaire, tu verras, en haut à droite, il est cassé. Alors bien sûr qu'il l'avait lu quelque part, mais pour retenir un détail comme ça, j'arrive, la première chose, regarde, le verre, il était cassé, c'est vrai. Et toutes sortes de choses. Je dois dire que lorsqu'on a visité cette maison, J'ai eu l'impression à un moment donné que les guides le suivaient presque parce qu'ils connaissaient absolument tout, les détails, la couleur du piano, la position du poste de TV, etc. En plus de la connaissance musicale. Et ce qui est fantastique chez lui, c'est qu'il a appris les mouvements sur scène. Alors c'est vrai qu'il m'a donné un foulard d'Elvis Presley. Vous savez qu'Elvis donnait ses foulards. Alors il m'a donné dans un cadre un foulard d'Elvis. Mais je dois dire que cette espèce de chemin sur la route d'Elvis, ces 10 jours aux États-Unis, Memphis et les autres endroits, les studios d'enregistrement, m'ont amené à mieux connaître Elvis Presley.
Vous l'aviez vu, professeur, en concert
ou
jamais?
Non, jamais. J'ai vu d'innombrables enregistrements, mais non, je ne l'ai jamais vu en concert. Et je dois dire qu'il avait une puissance aussi sur scène. Peut-être pas le même contact avec le public. Le public était très proche de lui, mais je le sentais moins pris par le public que je n'ai senti Johnny. C'est peut-être l'effet des vidéos de ne pas avoir été dans le public. C'est vrai que ça a été un excellentissime chanteur, avec une voix totalement extraordinaire, un début de carrière très particulier, un peu hasard, et puis représentant un courant musical absolument étonnant. C'est probablement un des, ou le plus grand chanteur avec quelques autres Américains.
Et là, aujourd'hui, le rock, alors, avec ces deux...
C'est le rockabilly, aujourd'hui. Ouais, c'est le rock primaire.
Vous reposez sur qui, sur quoi ?
Écoutez, pour l'instant, sur toute une série de chanteurs, il y a beaucoup de jeunes chanteurs qui font du très bon rock, du rockabilly. Johnny et Elvis restent les bases, mais il y en a pas mal d'autres qui sont très talentueux et très jeunes. Et le rock n'est pas mort. Le rock, après une période où il a été un petit peu battu en brèche, se retrouve maintenant sur le devant de la scène avec cette activité, avec ce rythme, avec cette joie de vivre finalement.
On a parlé route de Memphis, là vous avez juste donné le nom. On va peut-être parler de la route 66, si vous êtes d'accord. Parce que là vous m'avez tendu une petite perche et là ça vous fait sourire parce que vous voyez où je veux en venir avec la route 66. Ça c'est une autre passion de Philippe Morel. Ouais. Moi je suis admiratif d'avoir toutes ces passions en plus de passer sa vie ici dans ces hôpitaux. La Harley Davidson, c'est venu comment ? C'est venu avec Johnny, c'est quoi ? Racontez-nous,
non,
le début.
C'est venu avec mon neveu. Mon neveu, Fabrizio Antonelli, qui travaille au Hugues, du reste, est un passionné de moto. Il est donc le fils de la sœur de ma femme. Il habite Genève, je suis proche de lui, puis il y a des années qu'il a des motos. Puis un beau jour, il m'a dit « Écoute, tonton, il faut que tu t'achètes une moto. » Et ça ne peut être qu'une Harley.
Pardon, ce beau jour, c'était quand pour nous aider ?
C'était à peu près il y a 10 ans.
Ok.
À peu près il y a 10 ans. Et puis, j'ai acheté une première moto, une Sportster Harley Davidson, qui était une petite Harley, mais déjà assez chouette. Et puis, je dois dire qu'au début, on a le L, hein, on n'a pas obligé d'avoir le permis, on a le L. Alors, il venait avec moi, et je suis allé la montrer un jour à mon père, j'avais fait exactement 100 km. J'ai mal mis le pied de la Harley, elle est tombée, j'ai voulu la retenir, je me suis déchiré le tendon du biceps sur le bras gauche.
Ouais, parce que c'est 200 kilos, hein, enfin, on
ouais,
parle de...
un peu plus même,
même
un peu plus,
250 okay.
kilos, à peu près, ouais, à peu près, voilà. 200-250 kilos. Donc, quand ça tombe, en tout cas, elle retient
pas. C'est pas un Solex, hein.
C'est pas un Solex, non. Mais j'aurais jamais dû la retenir, j'aurais dû la laisser tomber, elle serait peut-être un petit peu abîmée, mais sans gravité. Alors là, je me suis déchiré le tendon du biceps. Ma famille n'a strictement rien dit. Ils se sont dit, il va arrêter l'Arles. J'avais fait 100 km. Je me suis fait opérer par un de mes collègues à l'hôpital qui m'a suturé le tendon, en anesthésie générale. Puis j'ai repris ma Arles. Non seulement j'ai reprise, mais j'ai émis le projet à ce moment-là avec ma femme de faire la route 66. Et puis la route 66, on loue des motos sur place et en général des grosses Harley. Alors je me suis dit, tu ne vas pas aller à partir de ta petite Sportster avec laquelle j'ai finalement passé le permis, bien sûr. Je me suis acheté une plus grosse Harley, une Softail Heritage. Et puis, j'ai navigué sur cette moto qui était magnifique, qui était une moto bleue avec magnifique, une vraie Harley dans sa peau avec les aspects de la vieille Harley, splendide. Puis ensuite, j'ai fait une première fois donc la route 66. En fait, la première fois, je l'ai faite à moitié. J'ai fait aux deux tiers, disons.
C'est 3000 kilomètres.
C'est près de 5000 kilomètres.
C'est 5000 kilomètres.
Je suis parti de Phoenix la première fois, Phoenix à Los Angeles.
C'est ça.
Puis ensuite, je suis arrivé au bout de la route 66 et j'ai eu un ennui majeur, un problème majeur, c'est-à-dire que je voulais absolument la refaire. Je n'attendais pas de pouvoir la refaire, mais cette fois en entière. J'ai fait une deuxième fois avec un autre groupe, depuis Chicago jusqu'à Los Angeles.
C'est la vraie route.
Ça, c'est toute la route. Et alors, vraiment la vraie route. On a eu un ami qui a mis sur le GPS l'ensemble du parcours, parce qu'il n'est pas très bien indiqué à certains endroits. Très bien indiqué dans des livres, mais il n'y a aucune carte. Il a passé des heures et des heures, c'est le professeur Eger de Fribourg, qui m'a mis ça sur un GPS. Et puis ensuite, je l'ai fait une troisième fois avec un autre groupe encore, de nouveau Chicago, Los Angeles. Pas plus tard que hier soir, je regardais sur YouTube un film qui a été fait sur la route 66. Je dois dire que elle incarne un certain nombre de choses. D'abord, la moto et le voyage en moto, dans des conditions idéales, parce qu'il y a peu de circulation. C'est des routes assez droites, donc ce n'est pas très difficile. Deuxièmement, c'est, comme il disait dans le film hier, une Amérique qui n'existe plus. C'est l'Amérique de la proximité. C'est aller dans des petits bars, dans des petits restaurants, dans des pubs, enfin des endroits qui sont affreusement sympathiques et très proches des gens. Et puis troisièmement, c'est les paysages. C'est des paysages extraordinaires, d'une variété. Quand vous passez d'une côte à l'autre des États-Unis, vous traversez des forêts, vous traversez des déserts, vous traversez des plaines, vous traversez des petites montagnes. C'est magnifique. C'est une route extraordinaire. Et c'est vrai qu'en arrivant à la fin, on a un sentiment de, j'allais dire, d'abandon. Dire, zut, pourquoi c'est fini? Je retourne.
Et là, c'est fini, définitivement.
Non, je ferai la une. Je ferai la une, c'est-à-dire celle qui va du nord au sud, toute la côte ouest des États-Unis, que j'espère faire cette année, avec ma femme et avec des amis, parce qu'il faut être plusieurs. Puis il faut quelqu'un qui conduise le véhicule derrière. Ma femme organise tout. Hein. Je ne vais pas avec un truc organisé. Celle qui organise tout. Les réservations d'hôtels, les vols, tout, tout, tout. Seule chose que je fais, moi, c'est de réserver les motos. Comme ça, s'il y a un problème, c'est moi qui suis responsable.
Et aujourd'hui, ça se traduit comment? Vous roulez quand? Le week-end? Vous avez alors, quel type de machine? Qu'est-ce que... Vous n'arrivez quand même pas à la clinique générale Beaulieu en Harley?
J'ai encore changé de moto. J'ai une Street Glide, j'ai une grosse Harley. Deux places, très confortable pour la passagère. Mais je ne roule plus beaucoup. En hiver, je ne roule pas du tout, évidemment. Et puis, je dois dire que l'année passée, je n'ai pas roulé énormément. Et ce qui est dangereux, justement, quand on a une moto comme ça, c'est de ne pas l'utiliser suffisamment souvent et de perdre peut-être certains réflexes, certaines habitudes. Et je dois dire que je me réjouis de m'y remettre. Je voulais presque m'y remettre ce week-end, mais bon, pour différentes raisons familiales, ça ne s'est pas trouvé. Pour avoir une activité sur la moto. Si on ne conduit pas sa moto, si on pilote pas sa moto, qu'on la pilote pas suffisamment, je pense qu'à un moment donné, quand on l'utilise comme moi pour le plaisir et pas pour se déplacer vraiment et pour le travail, il faut abandonner. Alors je ne veux pas abandonner, puisque je veux faire cette année la côte ouest, c'est la descente du nord au sud. Donc je vais me remettre dessus. C'est dans les moments de libre, mais ça fait du bien.
Je vais vous jamais, dire. Jamais attiré par une autre marque. On dit même qu'il se murmure que vous avez... vous êtes arrivé à faire changer un petit peu de marque de moto Jean Romain, président du... Oui, qui est un habitué des BMW. Vous avez réussi à le mettre sur Harley Davidson.
C'est vrai, c'est tout à fait juste.
C'est quelque chose que j'ai entendu, c'est assez fort.
C'est tout à fait juste. Mais il y a une autre moto, pour répondre à votre première question, qui est fabuleuse, c'est les Indian, qui sont des motos fabuleuses. Du reste, la dernière fois que Johnny est allé aux États-Unis sur la moto, c'était sur une Indian. Mais enfin, je ne vais pas faire de la publicité pour une marque, mais elle n'a pas besoin de moi, cette marque, pour faire de la publicité. Alors, Jean Romain s'est trouvé sur une Harley pour la route 66, parce que la troisième fois, je l'ai faite avec lui et avec Charles Seleger. Et je veux dire, c'était extraordinaire, parce que Jean est un excellentissime motard. J'entends, c'est un motard de tous les jours, c'est un motard très habile.
Oui, je vois souvent des photos sur Facebook.
Il a une énorme pratique. Il a fait la moto dans des conditions épouvantables, qu'il a retracées. Il y a un site internet sur lui. Alors, de le remettre sur un gros cheval comme la Harley, au début, il pestait. Et lui, il pestait, puis ensuite, il s'est rendu compte que sur les longs bouts droits, sur ces larges routes, sur ces longs parcours, c'était quand même très agréable d'être assis sur une moto confortable. Et Jean a été extraordinaire pendant cette route. Et Charles, Jean et moi avons vécu, on était les trois donc, 15 jours absolument fabuleux.
Et Luc Bartassa fait partie de l'équipe? Parce alors que lui, non, il est aussi un jamais... peu alors, atypique, ancien du même parti. Enfin, vous avez deux, trois points communs, hein, si je peux me permettre, comme ça.
Oui, mais j'ai moins de chaînes que lui.
Oui. Ah oui. Et les tatouages? Vous, le tatouage, non.
Zéro tatouage. J'ai zéro tatouage. Non, zéro. Luc, je n'ai jamais eu l'occasion de piloter avec lui. On s'est retrouvés dans des manifestations qui ont lieu à Genève, la bénédiction des motards et d'autres manifestations. Mais on n'a jamais vraiment piloté ensemble. C'est aussi un excellent pilote de moto, je sais. C'est quelqu'un qui pilote certainement beaucoup plus souvent que moi et qui a une grande expérience, qui va aussi à l'étranger. Donc oui, on a un certain nombre de fibres communes.
Là, on arrive gentiment, Philippe Morel, on continuera évidemment des heures, on arrive tranquillement au terme de l'émission, on arrive en fin de journée, la fin de la journée, là, par exemple, elle va se terminer par quoi? Par un petit
alors,
coup
je vais
au PLR, parce qu'il y a encore, on n'a pas évidemment parlé du volet politique, qui est quand même important, qui est très très présent.
Ah, bah, écoutez, la politique, maintenant, je vais faire le maximum de ce que je peux faire, mais je n'ai plus d'ambition personnelle, j'en ai eu à un moment donné, les choses ne se sont pas données, et puis c'est comme ça. Maintenant, je vais voir une patiente, puis ensuite, à 7h15, j'ai le caucus du parti auquel je vais aller, qui va durer, comme d'habitude, jusqu'à 9h, 9h15, 9h30, mais qui est un moment très intéressant, c'est un moment de discussion, c'est un moment où j'apprends beaucoup de choses, c'est un moment où les gens expriment leurs idées sur des sujets d'actualité genevoise et politique, bien sûr. Mais c'est un moment pour moi très enrichissant et un moment de partage duquel je sors toujours très content et quelque part très modeste parce que je me rends compte de ce que tous les autres savent et que je ne sais pas. Je voudrais vous dire une chose. J'ai l'air finalement d'être très sûr de moi et très autoritaire. Alors j'essaye d'être le plus sûr de moi quand il s'agit de traiter des patients, quand il s'agit de les soigner et qu'il s'agit bien sûr de les opérer. Mais dans ma vie de tous les jours et dans mes relations avec les gens, je pense que je fais preuve de beaucoup plus d'humilité et de simplicité que certaines personnes le pensent à la faveur d'événements récents. Je suis admiratif des compétences des autres, des qualités des autres. Et puis surtout, j'ai beaucoup d'amour, disons-le, d'estime et de respect pour mes patients.
Mais le côté atypique, pardon Philippe Morel de vous couper, mais le côté atypique, ça dérange quand même un petit peu. On sait très bien qu'à Genève, dès qu'on est un peu dessus du peloton, on dérange immédiatement. Alors, vous faites évidemment partie de ceci, inutile de le préciser, parce qu'un professeur brillant, politicien, qui se passionne de plein de choses...
Et qui fait de la moto.
Pardon, mais vous avez tout pour énerver, on est d'accord avec ça. Écoutez, moi, vous ne m'énervez pas du tout, au contraire.
Je le regrette beaucoup, 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 parce que plusieurs personnes de ceux qui me critiquent sont des gens que finalement j'aime bien. Et je le regrette, mais on ne se refait pas. On est comme on est, et puis on vit comme on vit. Mais disons, ma vie a démontré que j'étais quand même beaucoup avec bonheur et avec satisfaction et avec envie au service des autres et pour les autres et pour aider les autres, non seulement dans mon métier, mais aussi dans des situations privées où j'ai contribué pour pas mal de personnes à faire ce qu'on dit en coup de pouce. Un de mes commandants militaires me disait la chose suivante, et c'est important. Il me disait, Philippe, tu ne peux pas changer le monde. Mais si chacun autour de lui veut changer les choses, si chacun, lorsqu'il voit une situation inacceptable, humaine, concernant des êtres humains ou concernant des animaux, qui n'est pas acceptable, et qu'il la change, eh bien le monde changera. Et j'inculque ça à mes filles, puis je leur donne une devise, qui est en anglais, « Enjoy life ». Profite de la vie, dans le bon sens du terme, bien sûr. Réjouis-toi de la vie, apprécie la vie. Enjoy life, ça c'est important, parce qu'elle passe très vite. Et je pense que pour les jeunes, c'est important de le savoir, de la part de personnes comme nous, qui sommes dans le dernier tiers-temps de notre vie.
Philippe Morel, merci.
Merci.
Merci d'avoir écouté Direct News, le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, ce que l'on espère, eh bien pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Abonnez-vous à notre flux pour ne manquer aucun des prochains épisodes pour suivre mes entretiens avec différentes personnalités. Retrouvez-nous sur notre site direct-news.info et nos différents médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Direct News, MR en majuscule.